Bon, j'ai eu pas mal de messages de mes amis chasseurs qui se demandaient pourquoi il n'y avait pas de tirage pour la femelle, on parle de chevreuil ici, dans la zone 10 ouest, qui est très populaire dans la région de l'Outaouais. Pour avoir des réponses, puis on va parler de pêche aussi avec lui, bien sûr, parce que c'est l'ouverture du doré demain, je vous le rappelle. Michel Barry, il est biologiste à la Fédération des chasseurs et pêcheurs du Québec. Bonjour, Monsieur Barry.
Oui, bonjour.
Avez-vous une réponse pour la zone 10 ouest? Pourquoi il n'y a pas de tirage cette année?
Oui, j'ai fait des vérifications, puis effectivement, il n'y aura pas de tirage au sort pour les permis de serre sans bois dans la 10 ouest. Tout simplement parce que les biologistes du ministère considèrent que la population est trop basse là, présentement. Fait qu'on va donner une petite chance à la population de se rétablir dans les prochaines, au moins pour la prochaine année.
C'est drôle parce que les chasseurs me disent que oui, ils ont vu une baisse du cheptel dans cette zone-là, mais plus les mâles. Des femelles, ils en voient en masse, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas de permis pour les tirer. Avez-vous une explication?
Non, mais ce que je sais, par contre, c'est que faut tenir compte là, de l'effet de l'hiver. Quand on entendait parler des chasseurs là, sur leur évaluation de la population, là, c'était jusqu'à l'automne passé, après la saison de chasse.
C'est vrai.
Ça. Mais là, il faut considérer qu'on vient de passer au travers d'un hiver extrêmement dur.
Ah, c'est vrai.
C'est clair que les populations ont été affectées.
Donc, on a certaines inquiétudes pour la 10 ouest. Donc, il n'y aura pas du tout de chasse pour la femelle l'automne prochain dans cette zone-là.
Non, c'est en plein ça. Puis la 10 ouest, c'est pas la seule. J'ai fait des vérifications, là, puis il y a 7 ou 8 zones de chasse au Québec là, qui n'auront pas de permis de serre, de permis de chasse au cerf sans bois là, en 2019.
OK. Un mot sur la 10 est qui a été frappée par la saga de la maladie débilitante chronique. On s'en est parlé à plusieurs reprises l'automne dernier.
Oui.
Est-ce que ça amène des changements dans cette zone-là?
Oui, là c'est drôle parce que même si la population est basse dans ce coin-là, on maintient des permis de serre sans bois dans la 10 est.
Okay.
Mais là on comprend qu'on veut, comme on dit en bon chasseur, on veut taper dans la population, on veut la maintenir le plus bas possible pour éviter de la contamination si toutefois il y a de la maladie. Jusqu'à maintenant, il n'y en a pas. Sauf dans la zone de surveillance rehaussée, là, j'espère que les gens se rappellent les cartes qui avaient été fournies par le ministère l'automne passé. Il y avait une zone qui était bleue. Dans cette zone-là, qui fait partie des zones 10 Est et 9 Ouest, ça va être permis de chasser tous les segments pendant toute l'automne. Les détails de la chasse ne sont pas sortis, les détails de la réglementation, mais ça s'en vient.
Alors ça, c'est la zone là, la plus proche de la ferme d'élevage où on avait eu des cas de maladies débilitantes?
Non, c'est l'autre non? Zone. La zone la plus restreinte était en rouge, colorée en rouge. Puis là, c'est la zone qui était colorée en bleu. En fait, il y a 17 municipalités qui sont considérées par cette mesure-là. Puis les détails vont être annoncés là, dans les prochains jours.
OK. Et ce que vous nous dites, c'est que au fond, on n'aura même pas besoin dans ces zones-là, qui vont être identifiées clairement en temps et lieu, d'avoir un permis de femelle pour abattre une femelle.
Exactement. On achète un permis de chasse. Et puis, on va avoir le droit de chasser les cerfs en bois et les mâles.
Mais une bête seulement, ça ne veut pas dire qu'on peut doubler la mise, là.
Non, c'est en plein ça. Donc, l'année passée, on avait déploré ça, nous, que le gouvernement, dans ses actions pour baisser le cheptel, n'utilisait pas les chasseurs, mais là, il rectifie la situation cette année.
Ben, en fait, il avait engagé des chasseurs américains, si je ne me trompe pas, là.
C'est en plein ça, c'est en plein ça.
Fait que là, on va se servir de nos chasseurs pour, entre guillemets, régulariser la situation dans cette zone-là.
C'est en plein ça.
OK. Ça, on pourra s'en reparler en temps et lieu quand on aura plus de détails. Là, je veux parler de pêche un petit peu. Hein, ça commence demain, la pêche au doré dans la région.
Oui.
Première question, parce que nous, on a énormément de pêcheurs qui vont faire un petit tour dans le parc de la Vérendrye, soit en fin de semaine ou dans les prochaines semaines. Au moment où on se parle, là, avec l'hiver qu'on a eu, justement, est-ce que tous les lacs sont calés dans ce coin-là?
J'ai vérifié, puis non, effectivement, ils ont des petits problèmes. Là, la CEPAC a honoré toutes les réservations qu'ils ont, je crois. Mais j'ai fait des vérifications et puis s'il y a des gens qui sont impactés par les conditions climatiques, ils vont être contactés par la CEPAC
au moins deux jours
avant leur réservation pour leur indiquer qu'est-ce qui en retourne au juste. Mais présentement, je sais qu'il y a une couple de routes qui sont fermées, il y a des secteurs qui ne sont pas encore ouverts. étant donné que le printemps est tardif.
Bien, c'est ça. Il y a deux problèmes. Il y a des lacs qui n'ont pas calé dans certaines zones, peut-être plus au nord ou plus en montagne, mais il y a aussi le problème des chemins là, qui ne sont pas praticables avec toutes les inondations qu'on a vécues, puis la neige, puis etc., etc.
Oui, c'est en plein ça. Ça, c'est un portrait qu'on voit souvent au printemps. Mais là, malheureusement, là, ce printemps, c'est un peu pire.
Particulièrement cette année. L'eau va être très froide pour les gens qui auront la chance de pêcher et l'eau va être très haute également. Ouais. C'est pas toujours des conditions gagnantes pour la pêche au doré, ça.
Non, du tout. Puis pour la pêche en général, hein, c'est un peu dur. Hein. On comprend que premièrement, les poissons, c'est des animaux à sang froid, donc ils ont besoin que l'eau réchauffe un peu pour activer leur métabolisme. Là, quand le printemps est tardif, l'eau demeure froide, tout ça, c'est sûr que les poissons restent ankylosés encore un peu.
Ils sont comme encore en semi-hibernation, eux autres, là.
Oui, exactement. Puis ensuite, pour la pêche, là, quand on parle du doré, c'est un prédateur. Là. C'est des poissons qui ont besoin de bien voir dans leur environnement pour chasser. Quand l'eau est haute comme ça, l'eau est affreusement sale, l'eau est turbide, puis c'est mauvais pour la pêche, pour la plupart des espèces dans ce temps-là.
Bon, en même temps, le fait que l'eau est très haute, ça amène plein de nourriture là, sur les berges des différents lacs ou des différentes rivières. Là, moi, j'appelle ça de la cochonnerie là, qui se ramasse dans l'eau. Ça, le poisson peut aller se nourrir là-dedans. Est-ce qu'on est mieux d'essayer de pêcher là-dedans le plus possible puis d'en gaffer un une fois de temps en temps?
C'est dur à dire, mais je pense que ça serait une technique qui serait assez valable. Puis là, maintenant, à part ça, on a des leurres là, qui font du bruit un peu, là, toutes les sortes, des vibrations, des choses comme ça. Là, c'est sûr que c'est à favoriser.
Alors, les leurres les plus bruyants et les plus visibles possibles.
Oui, exactement.
Bon, mais je prends des notes, M. Barry. Là. C'est bien mieux de marcher, ça. Et avant de vous laisser, là, sur une note plus sérieuse, parce que, la pêche, on a chacun nos trucs, mais ça prend un peu de chance aussi. Alors, bonne chance à tout le monde qui s'en va à pêche en fin de semaine. Mais vous, comme biologiste, quand vous voyez des inondations comme cette année, puis celle qu'on a vécue en 2017, mais c'est encore pire cette année, est-ce que ça vous inquiète pour le poisson?
Oui et non. Ça veut dire que dans le sens que, je prends par exemple la perche haute ou le brochet, qui sont des poissons qui frayent dans des zones inondables. Quand l'eau sort de son lit, les autres, ils en profitent, ils montent à travers les branchages puis la végétation, ils pondent leurs œufs là, fait qu'ils ont besoin des inondations. Mais quand c'est trop, les inondations sont trop fortes, comme cette année, là, il peut y avoir des poissons qui vont s'éloigner trop des lacs ou des rivières. Les rivières et les lacs rebaissent, puis là, les poissons peuvent se trouver confinés, perdus, puis ils vont mourir là, quand où ils se trouvent vont être asséchés. Les zones où ils se trouvent vont être asséchées.
Et si les poissons regagnent le lac ou la rivière, peut-être que les œufs, eux, vont rester là, puis ça va être du gaspillage, là.
C'est le même phénomène. Et puis, je pense aussi à d'autres phénomènes, comme pour les salmonidés, dont l'ombre de fontaine, qui a besoin des conditions particulières en rivière pour se reproduire à l'automne. Quand on a des grosses crues comme ça, les rivières sont très fortes, les débits sont très forts. Des fois, ça modifie aussi l'apparence d'une rivière, ça modifie le lit de la rivière, puis ça peut détruire des habitats de reproduction de certaines espèces. Fait que là, c'est pas ce printemps qu'on va s'en ressentir, c'est quand les poissons vont se reproduire à l'automne qu'il peut y avoir des frayères qui ont été détruites là, ce printemps.
Je comprends.
Fait que ça, c'est à plus long terme là, qu'on va s'en rendre compte. Là. Des printemps là, excessifs là, comme cette année, c'est sûr que ça a des conséquences sur plein d'espèces de la faune.
Oui, pas trop souvent, s'il vous plaît. Évidemment, il y a encore pire, là, on pense aux sinistrés qui sont encore là-dedans, qui nous écoutent,
mais
pêcheurs, c'est sûr qu'on n'en veut pas trop souvent parce qu'on veut assurer la survie de ces espèces-là. On veut que nos enfants puis nos petits-enfants puissent profiter de la pêche comme on le fait.
Puis ensuite, il y a des impacts environnementaux, là. Je pense, c'est sûr que quand l'eau est haute comme ça, là, souvent, il y a de l'érosion des sols. Il y a de la contamination aussi, parce qu'il y a des places, c'est des réservoirs d'essence qui sont submergés. Il y a ces conséquences-là aussi, éventuellement.
Tout à fait. Puis vous parlez d'érosion. Soyez prudents, parce que ça va être un festival du glissement de terrain, probablement, dans certains chemins de campagne, là, chemins de terre.
Oui.
Alors,
oui.
ça serait bien plate qu'on ait des accidents malheureux à cause de ça. On a déjà eu un, d'ailleurs, ici, dans la région, au début des inondations. Merci beaucoup, M. Barry. C'est toujours un plaisir.
Ça me fait plaisir.
À la prochaine.
À la prochaine.
Voilà Michel Barry, il est biologiste à la Fédération des chasseurs et pêcheurs du Québec.